Thème qui nous attend aujourd'hui est un thème assez fort, puisque c'est le thème de l'éducation, et j'imagine que la plupart d'entre vous, vous comme mère de famille, vous avez à éduquer, ou comme grand-mère, vous avez aussi à avoir ce regard sur vos enfants ou petits-enfants, selon le cas. On va traiter de deux manières le sujet, c'est un sujet très vaste évidemment, hein, c'est un sujet très vaste, mais on va le traiter de deux manières, ce sera l'objet des deux enseignements d'aujourd'hui. Premièrement, ce matin, on verra qu'est-ce qu'il y a à éduquer dans la personne humaine. Donc un peu détailler la personne humaine, avoir ce qu'on appelle une anthropologie, ça fait partie de la philosophie, une anthropologie de la personne humaine, hein, pour savoir ce qu'il y a à éduquer. Et puis ensuite, nous verrons ensuite quels sont les grands axes à donner. Alors je ne vous donnerai pas des trucs d'éducation, vous pourriez m'en donner beaucoup plus, vous qui êtes au contact quotidien, mais souvent ce qui manque, c'est ça, c'est un peu des lumières. Dire où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on veut guider nos enfants. Parce que éduquer, ça vient dans le mot éduquer, il y a doucere, c'est-à-dire conduire. Conduire vers quoi? Hein? Et il faut bien prendre conscience que éduquer, c'est plus donner des directions que donner des directives. Même s'il faut donner des directives. Et éduquer, c'est pas dresser. C'est faire que, bah, avec la grâce de Dieu, hein, parce qu'on s'appuie sur le Seigneur pour cet exercice redoutable qu'est l'éducation, avec la grâce de Dieu, demander au Seigneur vraiment que l'enfant ait une certaine direction dans sa vie. Prenne ensuite le départ, ensuite il en fera ce qu'il voudra, mais prenne le départ avec au moins quelque chose de clair dans sa conscience, dans son cœur. Et ça, c'est dans l'éducation. Et de façon à ce qu'il se l'approprie ensuite lui-même. Hein, comme nous-mêmes, nous sommes appropriés de nos parents, ben, un certain nombre de choses, d'autres qu'on a laissées de côté, mais d'autres choses, et peut-être d'autres qu'on a rajoutées que nos parents ne nous ont pas données. Alors, on commence ce matin par cette question de un peu d'anthropologie qui est très importante. Quelle est la personne humaine que l'on doit éduquer? Et je vous renvoie, peut-être certaines étaient là à la première halte de l'année, là au mois d'octobre, sur la vision de l'homme. C'est essentiel pour la question de l'éducation. Tout simplement, si j'ai comme vision de l'homme une vision qui arrête l'homme simplement à la dimension matérielle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien après la mort. L'homme est un amas de matière, il meurt et puis tout meurt avec lui. Ou alors, si j'ai comme vision de l'homme que dans l'homme, il y a une dimension spirituelle, mais au sens philosophique, c'est-à-dire une dimension qui transcende la matière et qui demeure après la mort de corps, hein, ce qu'on appelle l'âme spirituelle, on verra ça, eh bien, j'éduque l'enfant. Et puis en plus, la dimension de foi que mon enfant est en ce que la personne humaine est faite pour voir Dieu, et donc est appelée à l'éternité. Hein, on méditait avec certaines familles là, durant le week-end sur la question de l'espérance, ben c'est ça, c'est réaffirmer qu'on est fait pour la vie avec Dieu, mais qu'on met mon enfant au monde pour l'éternité. Mais c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Les axes qu'on va donner sont pas du tout les mêmes. Dans un cas, on dira ben, mange, bois, fais la fête, je sais pas quoi. Et dans l'autre cas, il y aura une profondeur qui sera donnée, parce qu'on prend conscience que cette éternité, on la vit d'ici-bas. Donc vous voyez, c'est. Et puis on prendra les moyens spirituels, et la vie spirituelle fera partie de l'éducation. Dans l'autre cas, ben, on vit comme si Dieu n'existait pas, comme beaucoup de nos contemporains. Donc vous voyez, c'est vraiment très important, et aujourd'hui, il y a des visions de l'homme qui sont différentes. Et il faut en prendre conscience. Et ensuite, les lois en sont le signe, les systèmes économiques, les systèmes éducatifs, tout ça, ça nous est distillé au quotidien, et sans qu'on ait forcément à prendre conscience des mots, et mettre des mots là-dessus. Alors, on va commencer tout de suite par cette anthropologie. Alors, cette anthropologie, je m'appuie sur Aristote. Aristote, hein, qui est un païen, donc il ne s'agit pas d'anthropologie chrétienne, parce qu'il peut y avoir une anthropologie chrétienne. Là, on parle d'anthropologie philosophique, hein, c'est-à-dire qu'il, par Aristote, sur son traité sur l'âme humaine, a détaillé un certain nombre de choses qui, par l'observation, qui habitent le cœur de l'âme humaine, et donc qu'il nous livre là. Tout d'abord, la première réalité que nous découvrons dans la personne humaine, c'est la réalité du corps. Et comme il est aussi important d'éduquer le rapport au corps. Le rapport au corps, évidemment, c'est le rapport à l'hygiène, bon, mais c'est le rapport aussi à la sexualité. Je suis comme homme, je suis comme femme. Et donc, conforter l'enfant dans sa féminité, dans sa masculinité. Hein, on a vu qu'on avait parlé de la place du père dans la famille, que c'était en rôle, entre autres le rôle du père, que de conforter l'enfant dans sa propre féminité ou sa propre masculinité. C'est pas interchangeable. Hein, il n'y a pas une mode unique sexe. Hein, ça n'existe pas. Ça veut dire, si dans les jeans ou je sais pas quoi, mais en dehors de ça, non. Hein, c'est comme homme et comme femme, on est au monde avec une perception différente du réel. Hein, c'est aussi prendre conscience de l'importance du respect de son propre corps. Hein, du respect de son propre corps. Et donc de la dignité du corps humain et de la dignité du corps de l'autre. La dignité du corps humain, la dignité du corps de l'autre, qui va faire justement que bien, j'ai un rapport au corps qui est différent, d'autant plus que, alors avec la foi, là on passe dans le domaine de la foi, bah, je sais que avec la foi, eh bien, je sais que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc je suis habité dans mon corps. C'est pas simplement un amas de cellules. C'est pour ça qu'une personne, je dis ça entre parenthèses, une personne n'est jamais un légume. Même si elle est réduite à l'état comateux ou à l'état neurovégétatif, hein, et puis bah, son corps dit sa personne. Et il y a un lien, dira Aristote, substantiel. Alors ça c'est un mot un peu difficile, c'est-à-dire c'est un lien intime entre l'âme et le corps. Ce que l'on fait avec son corps touche notre âme. Ce que je vis avec moi, mon âme, ce que je vis dans mes sentiments, dans mes émotions, se traduit dans le corps. Ben, la preuve, c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Et c'est quelque chose déjà que Aristote, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, avait découvert. De dire, et ça vient de quoi? C'est une réalité, c'est que ce que je vis, je ne sais pas quoi, moment d'angoisse, de stress, ben, il y a l'apparition de boutons, on a plus faim, on a mal à la tête, on a mal au dos, en général ça se reporte sur le dos. Parce que notre corps, c'est pas simplement un amas de matière. Il dit quelque chose de ce que l'on vit. Hein, et à tel point, par exemple, que même dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle la psychomorphie. Hein, c'est-à-dire que les entreprises, dans le recrutement, analysent le visage de la personne et en fonction de son visage, en tirent un certain nombre de caractères. Hein, c'est ce qu'on appelle la caractérologie, etc. Mais à tel point... Et on n'en prend pas à tel point notre corps est vraiment ce qui rend visible ce que nous portons invisiblement. Et ce qui rend visible, et ça on le doit beaucoup à Jean-Paul II, à cette réconciliation quand même avec le corps, parce que l'Église n'a pas toujours été vraiment réconciliée avec le corps. Hein. Entre le jansénisme, entre le rigorisme moral du 19e siècle, qui n'est pas du jansénisme, mais c'est du rigorisme moral qui voyait dans le corps quelque chose de sale, au tout début de l'Église aussi, cette tendance platonicienne, hein, l'Église s'est appuyée sur Aristote, non pas sur Platon pour la philosophie, parce que pour Platon, hein, le corps, prison de l'âme, etc. Non, il y a une unité substantielle entre le corps et l'âme, et on est à l'image de Dieu avec son corps. Et ça, on le doit à Jean-Paul II, quand même. Hein, ça, c'est la grande, parmi les grandes choses qu'il a faites, c'est vraiment la théologie du corps, qui est relativement peu connue aussi, hein, qui s'affirme sur une vision personnaliste hein, de la personne humaine. Hein, c'est n'importe le corps qui dit la personne. Hein, et il dit, bah, ça le dit dans l'étreinte des époux. Hein, c'est pas quelque chose simplement annexe, accessoire à la vie matrimoniale. Ça, on l'a vu quand on a traité la question de la sexualité dans le couple. Mais ça le dit aussi dans l'amour de Dieu qui, dans le corps de Jésus, hein, s'est manifesté. Et qui continue de se manifester dans le corps eucharistique. Donc, vous voyez, donc l'éducation du corps, c'est aussi l'éducation de sa propre identité. Hein, c'est l'enfant a la conscience de son identité avec son corps. Il peut très très bien de pas, et parce que parfois l'adolescence, etc., ils sont très attentifs au look qu'ils ont, etc. Alors il faut un peu leur donner des encouragements aussi par rapport à leur propre corps, mais les éveiller, c'est aussi toute l'éducation sexuelle. Bon, non, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais à quoi ce désir qui te pousse vers l'autre sexe, à quoi il sert, pourquoi il est là? Il faut pas avoir peur d'en parler. Je veux dire, là, ce week-end, j'ai un week-end préparation au mariage. 95% des couples qui arrivent au mariage, je veux dire, qui ont déjà la date fixée, n'ont jamais eu d'éducation sexuelle, parce que les parents, tout simplement, n'ont pas des mots pour pouvoir expliquer. Ni expliquer la finalité, ni expliquer l'aspect technique. Il n'y a rien de sale dans le corps. C'est ce que c'est notre cœur qui est sale. Mais dans le corps, il n'y a rien de sale. Désolé. Donc, ça fait partie aussi de ça. C'est remettre, au fond, il y a une finalité dans l'homme qui est là, cette communion et qui est source de bonheur, dont le corps est aussi un des instruments. C'est pas le seul, mais c'est un des instruments. Voilà. Donc, c'est la question du corps. Hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, surtout quand l'enfant est petit, qui passent par le corps. C'est l'importance du toucher, par exemple, l'importance de la tendresse corporelle, je veux dire, tout ça qui apaise l'enfant. Parce que le toucher, c'est le sens qui donne le plus de certitude. Un enfant qu'on ne toucherait pas, c'est un enfant peu à peu qui dépérit. Ensuite, on a dans la personne humaine, on distingue comme ça, on découpe en morceaux, si j'ose dire, mais bon, c'est à voir dans une unité, évidemment. On a l'affectivité. L'affectivité, les émotions. Et il y a deux grandes tendances dans les émotions, dans l'affectivité. Il y a ce qu'on appelle le concupiscible et il y a ce qu'on appelle l'irascible. Qu'est-ce que c'est que le concupiscible? Alors, pour Aristote, le concupiscible, c'est tout ce qui est en nous recherche de plaisir, l'éros, si on pourrait dire. Hein. C'est la recherche de plaisir. C'est en nous, que ce soit le plaisir charnel, que ce soit le plaisir de la musique, que ce soit le plaisir des yeux, que ce soit le plaisir de l'intelligence. Hein. Le plaisir comme joie, aussi la possession d'un bien. Donc, on est tourné vers le bien. Hein. Donc, vous voyez, Mais la difficulté de beaucoup de philosophes, c'est qu'ils ont pris une partie de l'être humain et ils l'ont absolutisé. Par exemple, le cas de Freud, il dit « mais la personne humaine n'est que recherche de plaisir ». Non, c'est pas vrai. Il y a eu en l'élevé, c'est évident, une recherche de plaisir. Sinon, on ne pourrait pas vivre. Si on n'a pas un certain plaisir à manger, ben on ne mangerait pas. Si on a fait un certain plaisir à donner la vie dans le couple, ben on ne le ferait pas, c'est tout simplement. S'il fallait s'arracher... dès qu'on avale une cuillère des efforts surhumains, donc il y a un plaisir, mais il y a un plaisir aussi plus spirituel, plus intellectuel, le plaisir de comprendre. Hein. Certaines curieux. Vous voyez donc, dans cette affectivité, dans cette recherche de plaisir, elle est à éduquer avec quelque chose qu'on appelle la tempérance. La tempérance, c'est-à-dire de mettre un juste milieu dans cette recherche. Ni trop peu, ni trop. Et donc on éduque dans la tempérance, essayer de trouver ni trop peu, tout ce qui est plaisir et sale, etc., ce qui est faux. C'est en nous, c'est ni bon ni mauvais. Tout dépend à quoi on le dirige, vers quoi on le canalise, quelle est la source, quel est le but. C'est ni bon ni mauvais. C'est dans la personne humaine. Et si on bride l'affectivité, si on ne veut... Mais c'est comme la cocotte minute, hein, dont on retiendrait le bouchon, mais à un moment donné, ça pète. Donc il faut savoir aussi écouter ses émotions. Hein. Mais aussi, dans la personne humaine, ce qu'on appelle l'irascible, c'est-à-dire cette capacité de combativité, hein, de combativité, de courage, d'aller à la rencontre de ce qui est difficile. Ou alors de tenir dans la difficulté. Et ça, parfois, on ne l'éduque pas assez. le concupiscible, ça, la société se charge largement pour le développer, parce que tout est basé là-dessus. Faites-vous plaisir, le tout tout de suite, etc. Tout ça, c'est ce qui est dans l'air ambiant. Mais en revanche, cette capacité de tenir, par exemple, dans la difficulté, de franchir les épreuves, et même d'aller à la rencontre de choses difficiles. Comme par exemple, vivre dans une quand on a passé une maladie, on a porté ça. Il ne faut pas non plus s'écrouler parce qu'on est malade. Ou alors parfois, le fait de passer un examen, c'est aller à la rencontre de quelque chose qui est difficile. Et donc de développer, on parle surtout d'éducation de l'enfant, mais ça peut être l'éducation de l'adulte aussi. Hein. Et parfois, c'est là ce qu'on appelle la force, la vertu de force qui nous aide. La vertu de force, la tempérance pour tous la recherche de plaisir, et la vertu de force, de tenir bon, et non seulement de tenir bon, mais d'aller aussi à la rencontre de ce qu'on appelle d'un bien ardu, d'un bien quelque chose qui est difficile. Et parfois on se laisse emporter par nos peurs, par exemple, hein, l'inverse de la force, ce serait la peur, ce serait la... Ou alors la témérité qui serait un excès, hein, les gens téméraires qui pensent que c'est tout permis, que tout va être facile et que tout le monde est devant eux et puis ils peuvent y aller. Non, ben c'est pas non plus comme ça, c'est pas être fort ça. Être fort, c'est avoir aussi l'expérience de mes limites, de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable. Pas aller se lancer dans un truc mégalomaniaque sous prétexte qu'il faut aller de l'avant. Donc c'est apprendre aussi à une certaine connaissance de ses limites. Donc il y a dans notre affectivité à la fois une recherche de plaisir, la joie, l'amour, mais aussi une espèce de combativité, de force, qui peut entraîner la colère, qui peut entraîner la peur parfois, qui peut entraîner l'audace. Et on voit chez l'enfant, on parle plus de l'enfant, mais on voit chez l'enfant des choses qui émergent. Le tout dans l'affectivité, c'est de canaliser les choses. C'est de faire prendre conscience des émotions. Que l'enfant ne refoule pas à l'intérieur, ou nous-mêmes, à l'intérieur de... qu'on dise, si tu es triste, la tristesse fait partie de ces émotions attachées au plaisir. C'est le manque de plaisir, donc ça engendre une certaine tristesse. Ça fait partie de notre vie, il faut le dire. On voit parfois des enfants qui ne s'autorisent pas à dire ce qui les habite. On les sent très émus, très, très affectés, et ils ne le disent pas, parce que parfois ils n'ont pas les mots pour le dire aussi. Mais c'est à nous, adultes, à essayer de les faire parler pour un peu pour pas que ça se consolide, quoi, que ça se... Ensuite, on a toute la partie de la sensibilité, oui, ce qu'on appelle sensibilité, ou sensitivité plutôt, au rapport au sens. Et ça, c'est très important, le rapport au sens. Alors, il y a deux sens, il y a deux formes de sens. Il y a les sens qu'on appelle externes et les sens internes. Les sens externes, c'est tout simplement les cinq sens. Les cinq sens qu'on connaît, hein, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, le goût. Et pourquoi il y a aussi à éduquer ça. Il faut bien comprendre qu'il y a rien, il y a très peu de choses qui sont spontanées dans notre vie. Il y a très peu de choses qui sont spontanées. Tout dans l'être humain doit être éduqué. Le bébé d'homme, l'enfant, le petit d'homme, il naît dans une totale fragilité, contrairement à beaucoup d'autres animaux qui arrivent à se débrouiller au bout de 2 jours ou d'un mois ou de 2 mois. Lui, parfois, il faut 20 ans, voire 30 ans, pour être à peu près autonome. Donc, c'est assez beau de voir celui qui est le plus élevé, je trouve que ça dit beaucoup de choses, celui qui est le roi de la création, qui est quand même l'homme et la femme qui sont rois de la création, c'est en même temps le plus fragile. Vous laissez un enfant sans soins, il meurt, c'est tout simple. Ou un petit lion, un petit chien, etc. Tout de suite, ça se débrouille. Beaucoup plus rapidement. C'est assez intéressant. Ça, je crois que c'est une certaine source de méditation là-dessus. Mais donc, de voir au fond, Il n'y a rien de... Il y a très peu de choses qui sont spontanées. Arrêtons de croire qu'il faut être spontané, etc. Ça, c'est aussi un peu dans... Ça ne veut rien dire, parce que la spontanéité, c'est peut-être l'égoïsme. Hein, qui est spontané. Ça, être égoïste, c'est très, très spontané. Alors là, ça, en tout cas chez moi, il n'y a pas besoin de beaucoup de l'éduquer. Mais non, mais... l'égoïsme, non. Mais qu'est-ce qu'on veut vivre? Est-ce que c'est ça qu'on veut vivre? Donc, bah, c'est pour ça que c'est une tâche laborieuse, l'éducation, parce qu'il y a un peu tout à éduquer. Alors, pourquoi éduquer les sens et développer les sens? Et c'est aussi un peu le... Bah, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Vitoz, hein, qui part comme une certaine rééducation à partir des sens. Hein, donc, de prendre conscience, quelqu'un, un enfant ou une grande personne qui ne serait pas dans le réel, eh bien, il aurait cette difficulté à être, on repart des sens pour le remettre dans le réel. Mais c'est une méthode tout à fait excellente. Parce que c'est les sens qui nous mettent dans le réel. On n'est pas des purs esprits. C'est-à-dire on n'est pas dans notre imaginaire, simplement. Le fait d'éduquer la vue, d'éduquer l'ouïe, alors ensuite on voit d'éduquer le toucher, etc., c'est remettre la personne dans le réel. Et on verra quelle importance ça a ensuite pour le développement de l'intelligence. Pour le développement de l'intelligence. Les sens, donc, qui nous mettent dans le réel et qui en même temps nous construisent. On parlait de l'importance du sens du toucher, donc de toucher la personne, mais aussi la vue qui est le plus spirituel des sens. Hein. Dans un regard, on peut découvrir beaucoup de choses de la personne. Et ça peut être intéressant de développer. C'est rare qu'on s'adresse au sens, hein, alors que c'est vraiment quelque chose qui est présent dans toute personne, hein, sauf des difficultés liées à l'handicap, mais sinon, c'est... Hein. Donc, les sens qui vont ensuite, et c'est là où c'est important, nous remettre dans le réel et qui vont donner à l'intelligence leur objet. Ensuite, on y reviendra. Qui vont permettre à l'intelligence de faire son travail. Parce que rien ne rentre dans l'intelligence sans être passé par les sens. Donc c'est vraiment super important. Rien ne rentre dans l'intelligence sans être passé par les sens. Si j'ai le concept de chaise qui est dans mon intelligence, c'est que j'ai vu des chaises. Au moins, j'ai vu en photo. Ou alors si j'ai le concept de, je ne sais pas quoi, César, je n'ai jamais rencontré personnellement, mais j'ai vu, j'ai lu, il y a quelque chose que j'ai expérimenté. Si j'avais absolument aucune expérience de rien, on discuterait un objet, pourquoi très scientifique, ou des noms extrêmement complexes, ou qu'on ne connaîtrait pas, on dit, vous avez, pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu l'expérience, ou par la lecture, ou par l'apprentissage, ou que sais-je. Ensuite, les sens qu'on appelle internes, Les sens internes, il y en a trois sens internes essentiellement, ce qu'on appelle la mémoire, l'imagination et le sens commun. La mémoire, bon, je ne peux pas vous décrire, mais ça fait partie de notre sensibilité aussi, hein, la mémoire, cette capacité de... ça s'éduque aussi. Ben, à l'école, c'est vrai qu'on apprend beaucoup à retenir les choses, etc. Bon. Mais figurez-vous, tout ce que je viens de décrire, on l'a en commun avec les animaux. C'est-à-dire, l'animal a une mémoire. Il sait reconnaître ce qui est agréable, ce qui n'est pas agréable. Il est mu aussi par le plaisir. Il peut avoir une certaine combativité. Il a les sens plus ou moins développés. Bon, un chien, c'est plus développé qu'une huître, évidemment. Mais chez l'animal, il y a aussi soit un état un peu primaire, soit plus développé. Bon, chez les mammifères, c'est plus développé. Tout ce que je viens de dire. Hein. Ensuite, il y a l'imagination. Alors, l'imagination, donc, là encore, c'est ni bon ni mauvais, c'est dans la personne humaine. Hein, l'imagination, c'est cette capacité de créativité aussi en nous. Hein, par exemple, les mathématiques font beaucoup appel à l'imagination. Hein, les mathématiques, tout ce qui est mathématique, ça demande peu d'expérience. C'est pour ça que, par exemple, on peut être un génie en maths en ayant 15 ans. On sera difficilement un génie en philo à 15 ans. Mais un génie en maths, oui, c'est très facile, parce qu'il y a des enfants qui ont une imagination. Du coup, pour une racine carrée, vous n'avez jamais croisé une racine carrée dans la rue. Donc, bon, ils imaginent les choses. L'imagination, ça permet aussi de se projeter. Aristote dit que ça remplace l'expérience, dans un certain nombre de cas. Ça permet d'anticiper, ça permet d'abstraire, ça permet aussi de raisonner dans l'abstrait. Donc, du coup... c'est très intéressant de voir cette. Mais attention de ne pas vivre dans l'imaginaire, qui serait une certaine coupure du réel. Le troisième sens interne, c'est le sens qu'on appelle commun. Que Aristote appelle aussi la cogitative. C'est-à-dire, c'est un peu difficile. C'est le sens de ce qui est convenable ou pas convenable. C'est un peu le jugement. Mais il le met dans la sensibilité, non pas dans l'intelligence, parce que c'est une sensibilité qui se développe, bon, mais qui est quand même très élevée, hein, qui se développe, qui dit non, ça c'est le convenable ou pas convenable, c'est. On sent ce qu'il faut faire, ou alors au contraire, on dit ben, cette personne, elle n'a pas du tout de jugement. Bon, elle dit des choses, bon. Ben, elle n'a pas de jugement, elle n'a pas de sens commun. Hein, bon, on dit ben, il faut le sens commun. Ben, mais le sens commun, c'est d'éduquer justement ce qui est convenable, et pourquoi c'est convenable, pourquoi. Et dans une famille, il y a un sens commun qui se forme dans la famille. Parce qu'évidemment, la famille, on se forme un sens commun. Ben, non, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ben, ça c'est quelque chose familial. Hein, donc de former le sens commun. Et de corriger aussi l'enfant quand il dit des choses qui sont un peu aberrantes, quoi, qui ne sont pas dans la réalité, quoi, qui ne sont pas convenables. C'est-à-dire qui ne conviennent pas qui manquent de jugement. Ça veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, c'est pas une question d'intelligence. C'est que dans son affectivité, il y a quelque chose qui n'a pas été éduqué. Là, on est dans la sensibilité, l'affectivité. Hein, Alors, dans tout ça, tout ce qu'on vient, c'est un peu rapide, mais dans tout ça, tout ce qu'on vient de décrire, il n'y a rien de tout ça qui nous guide. Quel va être le gouvernail? C'est la question. Quel va être le gouvernail? Enfin, je crois qu'il y a quelqu'un qui cherche... Quel va être le gouvernail? Ça va être précisément aucun de ces sens-là. Et ça, c'est important. Ce n'est pas les émotions qui me gouvernent. Ce n'est pas simplement les pulsions du corps qui me gouvernent. Ce n'est pas la combativité qui me gouverne. Hein, c'est pas la recherche de plaisir, etc. Et je dis ça parce que bien souvent, on fait appel beaucoup aux émotions. On est dans une sorte de dérive émotionnelle dans notre société qui fait peu appel à l'intelligence. Hein, parce que c'est plus facile de gouverner un peuple qui se laisse agir selon les émotions qu'un peuple qui pense. Cette dérive émotionnelle... fait qu'au fond on se laisse aller au gré qui fait qu'on peut passer d'un excès à l'autre, quoi, parce qu'on se laisse les émotions sont celles qui nous guident. Non, mais c'est pas ça qui doit nous guider. Et par exemple, je pense à une chose là. Alors c'est vrai qu'on a un des symptômes, par exemple, on a une combativité, on a une force qui nous pousse en avant et à aller au et qui peut engendrer un certain stress en nous. La question du stress, ben, elle vient de là, de ce qu'on appelle de l'irascible. La personne est stressée, et donc... Et bon. Mais on ne résout pas le stress par la recherche de plaisir, par le fameux verre de whisky quotidien, ou le verre de bière. Hein? Alors je dis ça aussi aux hommes, alors ils baissaient tous la tête comme ça. Mais vous voyez, parce qu'on veut résoudre le stress... par le plaisir. Wow. C'est pas une relation matrimoniale qui va résoudre, parce que je suis stressé, donc sa femme est à disposition. Où est-ce qu'on va? Ça va pas, là. Non, mais écoutez. Sinon, non, mais vous savez, la réalité est souvent bien plus raide que ça encore. Donc, non, on diminue. Alors, quelqu'un me disait, mais vous ne pourriez pas faire un enseignement rien que sur le stress, moi. Bon, c'est vrai que... du coup, à la suite de ça, bon. Mais vous voyez, on ne résout pas le stress par la recherche de plaisir. On essaie de résorber le stress. Mais qu'est-ce qui me détend? Mais c'est le travail de l'intelligence. Alors, avoir une détente, alors ça peut être ça peut être un bon spectacle, ça peut être. Mais apprends, apprends, connais-toi toi-même. Ça peut être le travail manuel, ça peut être des tas de choses. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fois, notre société produit beaucoup de stress, et à la fois, le stress, ça fait marcher l'économie. Parce que du coup, comme le stress, il faut, pour faire baisser le stress, il faut consommer pour justement, c'est disons, alors, tout ce qui peut être la consommation fait baisser le stress. Donc, ça me... Bref, tout ce qui est lié à l'alimentation, tout ce qui est lié au plaisir immédiat, quoi. Alors, rien de tout ça nous gouverne. Ne gouverne dans la personne humaine. Ce qui gouverne dans la personne humaine, ce sont ses facultés spirituelles. Aristote dit qu'il y a deux facultés spirituelles. Il y a l'intelligence et la volonté. Mais je dis au passage, c'est important de bien éduquer toute cette partie, tant le corps que l'affectivité, que la sensibilité, parce que si on n'est pas, bien équilibré à ce niveau-là, ça va faire qu'au niveau des facultés spirituelles, eh bien, elles ne vont pas pouvoir s'exercer correctement. Parce qu'elles vont pas... on voit tout de suite, par exemple, un enfant, bon, pas qu'un enfant, hein, qui vit dans la peur, ou qui est paniqué, etc. Ça, c'est des émotions. Mais il rend feuille blanche alors qu'il sait exactement les réponses à l'examen. Donc, c'est pas qu'il n'est pas intelligent. Bien souvent, des échecs scolaires ne viennent pas d'une question de l'intelligence. Ça vient beaucoup plus d'une question de l'affectivité, hein, qui dépasse, qui submerge l'intelligence et qui fait que elle est plus capable de discerner, quoi, elle a plus de lumière. Alors, dans l'intelligence, hein, l'intelligence comme capacité, c'est quelque chose de spirituel, c'est-à-dire qui transcende la matière. C'est pas le fruit de l'évolution de la matière, l'intelligence. Bon. C'est quelque chose que Aristote démontre, mais bon, on va pas le. Pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle, stricto sensu, ça n'existe pas. Parce que tout ce qui est robot, etc., ça se résout à la matière, ou à des programmations, etc., mais il n'y a rien de spirituel, hein, sauf dans les films de science-fiction où on donne aux robots des âmes, etc., bon, et ils se révoltent, bref. Mais l'homme, il y a, dans toute personne humaine, il y a une intelligence et une volonté. Je dis toute personne humaine. Même la personne humaine qui a un handicap mental. On dit oui, des personnes qui ont une intelligence, qui sont blessées dans leur intelligence. Ben, l'intelligence ne peut pas être blessée parce qu'elle est spirituelle. Ce qui blesse l'intelligence, oui, elle peut être blessée, pardon. Mais ce qui blesse l'intelligence, c'est l'erreur et le mensonge. C'est ça qui blesse l'intelligence. De mentir. Ça. Parce que l'intelligence de l'autre a le droit à la vérité. Ou de le mettre dans l'erreur. Ça blesse une intelligence. Mais des personnes qui ont des handicaps mentaux ne sont pas blessées. Elles ont une intelligence et une volonté comme n'importe qui, donc leur dignité absolument intacte. Mais c'est bien souvent ce qui est parasité dans les personnes qui ont un handicap mental, c'est bien souvent en amont, dans ce que je viens de décrire, ou la capacité de saisir les choses, c'est plutôt la matière qui est souvent pas disposée pour pouvoir que l'intelligence et la volonté s'expriment. Et encore, il y a toujours une intelligence et une volonté qui là s'expriment. J'ai été pendant 2 ans à aider une personne comme ça à l'Arche, mais je me rendais bien compte que j'avais en face de moi une volonté. Si la personne voulait, elle pouvait être très très lourdement handicapée, mais elle avait une volonté. Si elle ne voulait pas manger, elle ne mangeait pas, et puis bon, parfois on s'engueulait, mais vous voyez, comme c'est important de reprendre conscience des choses toutes simples comme ça, mais de dire, au fond, dans la personne humaine, sa grande dignité, c'est cette capacité de porter en elle quelque chose qui transcende la matière. Quoi. C'est son intelligence, sa volonté qui est dans toute personne humaine. Et qui est à éduquer, là encore une fois. Alors, l'intelligence n'est pas l'érudition. Hein, l'intelligence ne se mesure pas simplement au... Alors, c'est vrai qu'on voit des enfants, par exemple, qui sont intelligents, qui pigent. Alors, parce que c'est quoi aussi l'intelligence? C'est la capacité de faire le lien, les liens. Ils pigent vite. Et ils font vite les liens entre les choses. C'est très... Quand on voit ça chez un enfant, c'est vraiment source d'admiration. Hein. Ou alors la capacité, en fait, et ça vient de intus legere, c'est lire à l'intérieur des choses. Et l'intelligence, elle est dans la vérité quand elle est en adéquation avec le réel, avec ce qui est. Donc l'intelligence est fécondée par le réel. C'est pour ça qu'on appelle la philosophie d'Aristote, qui ensuite a repris saint Thomas d'Aquin, philosophie réaliste, ou naturaliste, ça part de la nature des choses. C'est l'objet, hein, l'objet qui est premier dans la connaissance. Ce n'est pas le sujet qui connaît qui est premier. Ça, c'est énorme. Bon, on en a parlé la première en... première halte là de cette année, là en octobre, mais ça, ça a beaucoup, beaucoup de conséquences. Donc l'intelligence, alors, que faire aussi pour éduquer l'intelligence? Bon, évidemment, l'école aide à éveiller l'intelligence, ça c'est évident. Mais c'est pas à l'école, faut pas d'être, sauf cas particulier, je pense quand on met son enfant en pension, etc., où on délègue à une institution le fait d'éduquer son enfant. Non, mais dans la majorité des cas, en tout cas quand il est jeune, c'est pas à l'école d'éduquer, c'est tout le drame de certains milieux très défavorisés où les parents ont démissionné et c'est l'école qui éduque, ce sont les professeurs, les instituteurs qui font les malheureux tout ce qu'ils peuvent, mais qui se retrouvent avec la très lourde charge d'éduquer les personnes. Hein. Non, à l'école, on lui demande d'éveiller l'intelligence d'éveiller l'instruction, d'instruire. Hein? Sauf le cas particulier du pensionnat, etc., là où il y a une prise en charge complète. Mais, hein? Mais l'éducation vraiment appartient aux parents. Donc le fait de conduire l'intelligence petit à petit dans ce qui est le réel. Hein? Et je pense aussi, j'ai marqué l'émerveillement. L'émerveillement, c'est ce qui va aussi, c'est ce que... Les anciens disaient, les philosophes grecs disaient, l'émerveillement, l'étonnement est à la source de la philosophie. Mais qu'est-ce que c'est, cette curiosité intellectuelle? Eh bien, et on voit à un moment donné, il y a un âge chez l'enfant où il dit, mais pourquoi ça, c'est quoi ça, et à quoi ça sert, et il pose des tas de questions. Mais c'est sa curiosité, donc il faut prendre assez au sérieux, même si c'est fatigant, mais c'est sa curiosité intellectuelle. Hein, donc l'émerveillement, l'étonnement, l'admiration qui va permettre à l'intelligence aussi de s'éveiller. Et on a vu tout le contact avec les sens. Si j'éduque bien un des sens qui sont aiguisés, c'est aussi une intelligence qui est aiguisée. Ben, les grands cuisiniers, par exemple, hein, ben, ils ont eu un sens du goût qu'ils ont travaillé, qu'ils ont étudié, ou alors ce qu'on appelle les nez. Les nez, vous savez ce que c'est qu'un nez? Un nez dans le vin, donc ben, ils ont un sens de l'odorat qu'ils ont travaillé, mais c'est très lié à l'intelligence, au fond, ça. Leur intelligence a été plutôt développée. Ensuite, on voit qu'il y a des formes d'intelligence, il y a des orientations, on n'a pas tous la même. Hein, c'est pas parce qu'il faut être bon en maths, etc., il semblerait que ce soit universel, mais non, pas du tout. Donc, d'être attentif à quelle est la forme d'intelligence. On parle de l'enfant, hein, est-ce qu'il y en a qui sont plus dans l'abstraction, il y en a qui sont plus dans l'intelligence manuelle, il y en a qui sont plus... Bon. J'ai mis la foi aussi, parce que la foi, contrairement à ce qu'on pense, elle est dans l'intelligence. La foi, c'est adhérer à Dieu qui se révèle et dire c'est vrai. C'est pas des bobards. C'est ça la foi. J'ai foi en toi, Seigneur, c'est-à-dire ce que tu dis, c'est vrai. C'est l'acte de foi. C'est adhérer à Dieu qui se révèle. C'est écouter sa parole et y adhérer, y obéir. Et donc, pour y obéir, ça demande de dire c'est vrai. Je ne vais pas obéir à quelque chose qui est faux. Alors, je suis maso, mais bon, toute chose. Hein, donc l'éducation de la foi relève aussi de l'éducation de l'intelligence. Et souvent, ça c'est plutôt pour les grands, mais bon, sauf vous qui êtes ici présents, mais on reste souvent avec notre foi du catéchisme, et donc du coup, au niveau de notre intelligence des choses de Dieu, ça reste surtout au catéchisme, on fait des coloriages, donc du coup, ça fait que on reste, en tout cas c'était mon cas, donc on reste un niveau de foi vraiment basique, basique, basique. Bon, c'est un peu raide, il y a peut-être des dames catéchistes en face de moi, attention, faut que je me tienne tranquille. Donc, mais c'est la faute des curés tout ça, donc voilà, donc vous êtes dédouanés. Donc, mais c'est important d'éveiller, ou même quand vous faites le catéchisme, vous vous adressez à l'intelligence de l'autre. La foi, elle n'est pas dans la volonté. C'est pas je veux croire, je veux croire, je veux croire, c'est pas la méthode Coué. Hein. La foi, c'est, on s'adresse, on éveille. L'intelligence, au lieu de partir du réel, elle parle de la révélation de Dieu. Et tout le travail de l'intelligence à partir de la révélation de Dieu s'appelle la théologie. Et celle qui parle du réel, expérimentable, s'appelle la philosophie. Donc, mais vous comprenez bien qu'une philosophie qui serait pas ancrée dans le réel, ça rend très difficile ensuite une théologie, même une expérience spirituelle. Si je n'accueille pas d'abord le réel comme une source pour mon intelligence, ce sera très difficile d'accueillir la révélation de Dieu. Ou alors Dieu sera dans mes concepts comme quelque chose qui m'aide à construire ma logique cohérente de concepts. Mais ce n'est pas ça Dieu. C'est-à-dire qu'il est extérieur à nous-mêmes. Ce n'est quand même pas le fruit de notre cohérence ou d'une succession logique. Donc, dans la vie de foi, on part d'un point qui est extérieur à nous-mêmes, qui est la révélation. Donc, ça élève l'intelligence à une réalité spirituelle. À la réalité spirituelle révélée, cette fois, hein, à la réalité spirituelle. Donc, on est dans le domaine de la révélation. Donc, mais ça demande d'adhérer. Donc ça demande d'instruire quand même. Hein. Bien. On va pas t'entendre. Ensuite, on a dit la volonté. Donc la volonté, qu'est-ce que c'est en nous? Assez rapide, hein, c'est très rapide, pardon. Mais la volonté, qu'est-ce que c'est en nous? La volonté, c'est cette capacité de choix. Et de choisir ce qui est bien. Et comment est-ce que je sais que c'est bien? Parce que l'intelligence a découvert que c'était bien. Donc former l'intelligence, c'est former la conscience. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Bien souvent, on agit mal, mais en pensant faire le bien. Mais ça, c'est la manière la plus commune du monde d'agir. Ben, je pensais faire bien. Je sais pas quoi, ben, on voit ça bien souvent dans... Ben, je pensais que dans l'éducation, vous savez, je pensais que j'étais très très sévère et je pensais bien faire. Combien de fois on entend ça? Et c'est tout à fait sincère. Ça ne veut pas dire que c'est juste, mais ça veut dire que c'est sincère. Donc, quel est le bien derrière ça? Mais le bien, c'est ce qui correspond à ma propre finalité, c'est-à-dire le bonheur. Et la finalité de l'intelligence, c'est la vérité. La finalité de la volonté, c'est l'amour. Donc cette capacité de choix, cette capacité d'aimer le bien. Si j'aime quelqu'un concrètement, mais c'est que je vois en lui ou en elle un bien. Et quand je cesse de voir un bien, c'est là où ça se complique. Je vois quelque chose de bon. Je ne peux pas aimer le mal. C'est impossible. Tel que je suis fait, on ne choisit jamais le mal. Et c'est le philosophe Pascal qui disait « Même l'homme qui va se pendre cherche son bonheur. » On agit toujours sous le couvert du bien. C'est qu'on voit... Alors, il y a des biens véritables et il y a des faux biens. Donc ça implique un jugement et donc une formation morale. Il y a des biens véritables et il y a des biens, un bien réel et un bien illusoire. Hein, donc, cette capacité de choix, et donc ça veut dire aussi cette capacité d'engagement, mais ça veut dire aussi cette capacité de renoncement dans la volonté. Et on, là aussi, il y a du mal à éduquer la volonté. Autant l'intelligence, bon, surtout pendant certaines classes de la société, on pousse beaucoup les enfants, il faut les pousser, il faut les mettre dès la cinquième, il faut qu'ils aient anglais, russe, chinois, tout ça pour les stimuler, plus le sport, plus le machin, le piano, l'équitation, tout ça en même temps. Mais bon, cette capacité de choix, d'engagement, donc cette responsabilité, donc c'est l'éducation à la liberté, elle est dans l'intelligence, dans la volonté, la liberté. Donc vous voyez bien que ma volonté ne doit pas non plus être dirigée par mon affectivité, mes émotions. Je n'agis pas sous le coup de l'impulsion, mais parfois mais c'est, la maîtrise de soi, ça fait quand même partie des dons du Saint-Esprit. Certaine maîtrise de soi. Prendre par rapport à ses émotions une certaine distance. Et qu'est-ce qui nous aide à prendre une distance? C'est l'intelligence, entre autres. À essayer de se maîtriser. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui. Dans la volonté, l'éducation de la volonté au bien commun. De dire que si je suis à même de rechercher mon propre bien, il y a aussi le bien de tous. Et parfois, je peux être amené à sacrifier un certain nombre de choses que je désire, on a tous l'expérience, pour le bien de tous. Ben, quand on est militaire et qu'on se bat pour son pays, on est prêt à donner sa vie, mais pour le bien de son pays, pour la liberté de son pays. Et ça, c'est très beau. Hein? Ou pour conserver la paix dans tel ou tel pays, parce que bon, nos pays aujourd'hui ne sont pas attaqués militairement, pas encore. Mais en tout cas, quand on est envoyé en opération extérieure, ben parfois on est amené à, ben, pour garder la paix, parce que là, parce que le militaire voit un bien qui est là. Hein? Ou alors, dans la vie de foi, ben, tous ceux à qui on a demandé de refuser, de renier leur foi, d'apostasier, mais qui ont refusé, hein, comme c'était avant-hier, c'était Sainte Lucie c'est une martyre, mais elle n'a pas voulu. Et elle a dit, ma vie n'est pas le bien maximum. Il y a un bien qui est supérieur à moi-même, qui est Dieu. Et donc ma vie est quand même relative à Dieu. Donc elle peut être mise en balance par rapport à Dieu lui-même. Et donc je peux très bien accepter de mourir, qui n'est pas du suicide, mais parce que j'ai mis comme priorité, et ça c'est notre intelligence qui met l'ordre des priorités, hein, je fais le choix de Dieu dans ma vie et ça entraîne un certain nombre d'autres choix. Et ça entraîne un certain nombre de renoncements. Mais vous voyez le bien commun, hein, d'éduquer au bien commun. On verra ce soir, cet après-midi, à la communion. Et puis évidemment, dans la volonté, pardon, je suis assez rapide, mais dans la volonté, il y a la charité, l'amour, aimer à la manière de Dieu, aimer l'autre de façon désintéressée. Autant la recherche de plaisir en nous et l'affectivité est souvent égoïste, autant la charité, c'est cette capacité d'aimer à la manière de Dieu, sans attendre de retour. Et ça, c'est une vertu théologale, comme la foi et l'espérance, qui est donnée. La capacité est donnée. L'exercice, lui, il incombe à chacun d'entre nous. Mais il est donné au baptême. Mais il y a des gens aussi qui ont des grâces de charité sans être baptisés, on le voit très bien. Dieu donne ses dons quand même à qui il veut. Hein? Mais voilà. Ensuite, la quadrature du cercle, c'est l'unification de tout ça. On a séparer les affaires pour comprendre. Mais bon, on sait bien qu'on est une unité. Hein? On sait bien qu'on est une unité. Et la maturité, ce sera beaucoup l'unification de toutes ces facultés qu'on a en nous. L'intégration, l'harmonie. Avec beaucoup de patience. Éduquer demande de la patience avec l'autre et puis avec soi-même. Et puis notre éducation, elle est jamais terminée. On a aussi à s'éduquer soi-même, à travailler sur nous-mêmes. Mais on devient nous-mêmes les artisans de notre propre éducation. Et dans la vie matrimoniale, évidemment, l'autre aussi est l'artisan de l'éducation. Hein, nous corrige, nous, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours en place, c'est bien normal. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est appelé à travailler sur nous-mêmes toute notre vie. On dit, ben, c'est fatigant, ben, quand est-ce qu'on se reposera? Ben, au ciel. Mais c'est formidable, parce qu'on peut grandir aussi. De prendre conscience, et du coup on prend conscience à certaines étapes de la vie de certaines choses, à d'autres on n'en avait pas du tout conscience. Bon, et donc cette éducation qui est aussi permanente, hein,